Au studio Kalangou, monsieur dame, bonsoir et bienvenue dans ce journal du 19 juin 2019 au micro Nafis Adam Sirfo. Les titres de ce journal, l'État ne doit pas être le seul garant de la sécurité des personnes et de leurs biens. Il faut l'implication et la collaboration de la population, déclare le président régional de Tillabéri où se tient une concertation des conseillers élus. Près de 23% de la population nigérienne est touchée par la drépanocytose, a déclaré le ministre nigérien de la Santé à l'occasion de la journée de lutte contre cette maladie célébrée aujourd'hui dans le monde. Le magazine d'aujourd'hui parle des politiques d'accès et de maintien de la jeune fille à l'école présentées par le Niger, le Mali et le Congo-Brazzaville lors de la conférence des pays francophones qui se tient en ce moment dans la capitale tchadienne. Nous débutons ce journal par cette brève. Selon une source sécuritaire, deux policiers nigériens ont été tués hier vers 23h dans une attaque armée qui a visé le poste de police Routoualam situé à 10 km à l'entrée nord de Niamey. Selon la source sécuritaire, lors de cette incursion perpétrée par des inconnus, on dénombre aussi trois blessés dont un agent du péage routier. L'État ne doit pas être le seul garant de la sécurité des personnes et de leurs biens. Il faut l'implication et la collaboration de la population. C'est ce qu'a déclaré hier à Tillabéri le président du conseil de cette ville à l'occasion d'une concertation entre conseillers élus sur la promotion de la paix dans cette région limitrophe du Mali et du Burkina Faso en proie aux multiples attaques des groupes armés non étatiques. Le président Nyandou Bachir sur des propos recueillis par notre correspondant Abdelaziz Hassoumi.
La situation qui prévaut aujourd'hui au plan sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne expose le Niger à des vulnérabilités sécuritaires dans sa partie nord-est correspondant à la région de Tillabéri, des violences et des répercussions des groupes armés terroristes du fait de sa position frontalière avec les pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso. Ces problèmes constituent un défi sécuritaire majeur. Au regard du caractère complexe et stratégique de cette nouvelle façon de mener leurs actions, l'État n'est pas le seul garant d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il faut l'implication et la collaboration de la population à travers de telles activités. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans notre plan régional de développement qui consacre à son axe 4 la consolidation de la bonne gouvernance, du respect des droits humains et déjà dans un environnement multiculturel apaisé, citoyen et solidaire.
C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la drépanocytose, première maladie génétique au monde. Au Niger, près de 23% de la population sont porteurs de cette maladie, a déclaré lundi à Niamey le ministre nigérien de la Santé publique. Pour Mahamadou, drépanocytaire et membre de l'association nigérienne DrépaStop, la prise en charge des malades drépanocytaires est très compliquée pour les familles. On l'écoute.
De mon expérience, je peux dire que la prise en charge aujourd'hui des malades drépanocytaires, surtout SS, est une chose très pénible pour les familles. C'est très difficile. C'est un problème de santé publique, mais jusqu'à présent, la prise en charge est très compliquée pour ces familles, tant du point de vue du coût financier de la maladie, mais aussi de l'impact social et psychologique. Cette rencontre aujourd'hui a pour but d'éveiller les consciences, de rappeler à ceux qui le savent déjà que la drépanocytose, elle est là. Il ne faut pas s'y cacher, il ne faut pas se la cacher. Il faut en parler afin de pousser les autres à aller faire le dépistage et pouvoir prendre rapidement en charge la maladie et de lever aussi des fonds pour venir en aide aux familles des drépanocytaires.
300 000 enfants dans le monde naissent chaque année avec une anomalie majeure de l'hémoglobine. En Afrique, on note plus de 200 000 cas et une prévalence de 13% selon les données de l'OMS. Pour Dr Abedari Ali, médecin-chef au centre de la drépanocytose du Niger, dépister très tôt cette maladie permettra à chacun de connaître son statut et limiter la croissance de la drépanocytose, d'où la séance gratuite de dépistage organisée ce matin même au quartier Talaye de Niamey pour célébrer la journée mondiale de cette maladie. Dr Abedari, que je vous propose d'écouter.
Pour le moment, nous sommes en train de suivre simplement les malades qui sont déjà atteints. Donc on s'était dit que ce qui est important, c'est aller en avant, dépister déjà très tôt cette maladie-là pour pouvoir la prendre en charge rapidement. Le dépistage permettra de savoir qui sont les porteurs de cette maladie à très bas âge et quand ces gens-là vont grandir et tous ceux qui sont le trait drépanocytaire vont pas se marier entre eux. Donc ça permettra d'éviter la croissance de cette maladie parce que tant qu'il n'y a pas de mariage entre les personnes qui sont AS, il n'y aura pas d'enfants drépanocytaires SS au niveau donc de la population. Le dépistage concerne surtout les jeunes pour que eux puissent avoir leur statut et le garder. Et dans l'immédiat, ceux qu'on va découvrir qui seront drépanocytaires, on va les prendre en charge. Et ceux qui ne sont pas drépanocytaires et qui sont AS ou ceux qui sont A anormal, on va leur remettre les papiers qui prouvent leur statut.
La rareté des pluies à Niamey est normale selon une prévisionniste à la direction de la météorologie nationale. Techniquement, la saison des pluies démarre le 15 juin dans la capitale. Il n'y a donc aucune inquiétude à se faire selon Mme Aminou Nafissa. Elle a été interrogée hier par Rukayatou Abdrahman.
Actuellement, la saison des pluies s'est installée sur l'ensemble du pays au niveau de Niamey. À cette date, Niamey tourne autour d'une trentaine de millimètres. Quant aux dates de démarrage de la saison, nous sommes autour de la moyenne. Niamey, c'est environ vers le 15 juin. Nous sommes le 18 juin. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude à se faire.
Donc, on peut conclure que c'est juste un léger retard.
Non, je ne dirais pas un léger retard. C'est une normale. Comparativement aux 30 dernières années, cette situation sur Niamey, elle est normale. À travers les modèles, les résultats de la prévision saisonnière jusqu'en début juillet. Donc ces modèles prévoient sur la bande sud du pays des pluies faibles mais localement modérées.
Parlons éducation à présent. Proclamation lundi dernier des résultats du BEP, le brevet d'études professionnelles au lycée professionnel agricole de Terra. Ce sont 55 admis qui ont été enregistrés dans les filières élevage et agriculture. Un résultat meilleur à celui de l'an dernier, constata Abdoulaye Issa, secrétaire au centre d'examen de Terra. Il est au micro de Bokari Kanda.
Nous avons deux filières qui se sont présentées au BEP session 2019. Filière élevage, nous avons eu 33,5, soit un taux de 84,16%. Filière agriculture, il y a eu 22,5 sur 37, soit un taux de 61,96%. Globalement, nous avons eu 55,5, soit un taux de 69,62%. Au niveau de filles, sur l'ensemble des 11 filles, 8 sont admises, soit un taux de 72,72%. Et au niveau des garçons, nous avons 47 admis, soit un taux de 69,96%. Les résultats de cette année ont été meilleurs par rapport à ceux de l'année dernière. Nous voulons que les parents d'élèves aient confiance à l'école pour pouvoir orienter leurs élèves.
La fermeture jeudi dernier de l'unique brasserie du Niger pénalise les revendeurs des boissons. Pour le co-gérant du bar de la cité Tafadek de Niamey, il ne reste plus qu'à importer les boissons de l'étranger. Issa, co-gérant de Tafadek, interrogé par Rukayatou Abdrahman.
C'est vraiment un coup dur, d'abord pour les clients, ensuite pour nous qui risquons de fermer aussi ou de nous convertir dans la vente des canettes que les gens n'apprécient pas beaucoup, car moi j'ai épuisé tout mon stock. Maintenant, pour satisfaire nos clients, nous allons leur présenter les jus importés. Il y aura sûrement une différence de prix, car si tu achètes un produit, tu veux aussi un bénéfice. Nous sommes obligés de renvoyer quelques employés par manque de moyens. Nous souhaitons vivement qu'ils trouvent une solution pour cette situation.
Les usagers des axes routiers Belagaya et Dosso-Loga se plaignent de la dégradation de ces routes depuis plusieurs années. À lui tout seul, l'axe Belagaya draine au moins 80% des importations du Niger. Cependant, avec les fortes pluies, ces routes deviennent impraticables, souligne-t-il. Le reportage d'Aoussi Abdrahman.
Les routes Dosso-Bela ou Dosso-Loga constituent un véritable calvaire pour leurs usagers. Distantes respectivement de 83 et 76 km de Dosso, ces deux axes sont fréquentés quotidiennement par une grande partie de la population de la région. Si le premier axe est une route profondément dégradée, le second axe est une voie latérite, tous deux impraticables surtout en saison de pluie. Et pourtant, c'est par la route Dosso-Gaya dont fait partie le premier axe que transitent près de 80% des produits importés au Niger. Ce transporteur se plaint de l'état de ces routes.
Il faut parcourir au moins 4 heures de temps pour atteindre Béla. Le tronçon de ce Béla est celui qui nous pose le plus de problèmes. Nous souhaitons que ce tronçon soit bitumé le plus rapidement possible. Nos véhicules sont en train de vieillir et nous n'avons pas les moyens pour acheter de nouveaux.
Cette passagère lance un cri de cœur.
L'état du tronçon d'Osso-Loga est très mauvais. Je lance un cri de cœur pour que ce tronçon soit reconstruit le plus rapidement possible.
Il faut beaucoup de patience pour le passager de ces deux tronçons pour arriver à destination. Car initialement, des distances de 2 heures de temps, le passager de Dosso parcourt maintenant 4 heures de temps pour atteindre Béla ou Loga. Et pourtant, la construction de la route Dosso-Béla a déjà été lancée par le président de la République le dimanche 5 août 2018.
Suivez les programmes du studio Kalangu
à Magaria
sur la radio Kitari
101.5 MHz
à Zender
sur la radio Shukra FM
105.5 MHz
à Tanout
sur la radio Damergou
99 MHz
à Difa
sur la radio Amfani
100 MHz
à Menosorowa
sur la radio Mangari
95.1 MHz
à Ingigmi
sur la radio Dileram
99 MHz
à Kabalewa
sur la radio Mambio
99 MHz
à Agadez,
sur la radio Nomad FM
101.9 MHz
et sur la radio Sahara
97 MHz
à Arlit,
sur la radio Ikokan
95.1 MHz
et sur la radio Kausen
94 MHz
à Tirozerine,
sur la radio Azuru
95.1 MHz.
Studio Kalangu. Les programmes du studio Kalangu que vous écoutez à travers nos 38 radios partenaires dans tout le Niger. À présent, la partie magazine de cette édition. Pendant la conférence en cours à N'Djamena, au Tchad, sur les politiques en faveur de l'éducation des filles dans l'espace francophone, le Niger, le Mali et le Congo-Brazzaville ont présenté leurs expériences, des expériences favorisant l'accès et le maintien de la jeune fille à l'école comme parade au mariage précoce. Le reportage de notre envoyé spécial,
Le mariage précoce est encore très présent au Niger et au Mali. L'éloignement des écoles ou encore la déperdition des enfants contraindrait certains parents d'élèves à marier leurs filles. Moussa Boubacar Ba, secrétaire d'État malien chargé de l'enseignement bilingue.
Il y a 15 000 villages et il y a 7 000 écoles. Donc ça veut dire qu'il y a 8 000 villages où il n'y a pas d'école. Et pour aller au collège, les enfants marchent 4-5 km. Donc les parents préfèrent envoyer les garçons dans un autre village et d'envoyer les filles. Surtout à l'âge de puberté, il y a cette crainte de laisser les filles où il n'y a aucun contrôle. Donc les parents, au lieu de faire retirer les filles des écoles et de les laisser à la maison, ils leur donnent au mariage. Donc pour moi, la solution principale à ce niveau, c'est de rapprocher les écoles aux enfants. Ça va permettre aux parents d'avoir le courage de laisser leurs filles pour qu'elles continuent leurs études.
De son côté, le ministre nigérien de l'éducation pense que les écoles n'obéissent pas à la demande populaire. Toutefois, l'État du Niger a pris des dispositions en faveur de l'éducation des filles. Le ministre Daouda Mamadou Marti.
C'est la transformation même à moyen et long terme de l'école qu'il faut. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut essayer d'aller vers le développement des compétences au sein de l'école. Mais en attendant, à court terme, nous avons opté pour un décret qui va rendre obligatoire le maintien de la fille à l'école. Le Niger est un pays où le développement de l'école a été très lent. En 1960, à l'indépendance, on n'avait que 3% de taux brut de scolarisation. Aujourd'hui, nous sommes à 80%. Actuellement, on a un taux d'accroissement le plus élevé du monde de la population, 3,9. Plus la population croît, plus la demande est forte. C'est parce que beaucoup de filles ne vont pas à l'école et elles sont mariées à un bas âge.
Au Congo-Brazzaville, un concept aurait donné des fruits dans le secteur éducatif, explique la ministre congolaise de la jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermela.
Nous avons initié un concept dénommé la municipalisation accélérée. Nous avons 12 départements, donc chaque année, un département accueillait le concept qui devait donc développer des infrastructures de base. Et à chaque fois, on profitait de créer des nouvelles écoles à vocation scientifique. Et c'était un cycle de 10 ans. Donc le but, c'était aussi de réduire la fracture sociale qui existe entre l'école en ville ville et l'école dans les zones reculées.
Au regard de l'enjeu que représente l'éducation des filles, des pistes de bonnes pratiques pourraient être dégagées à l'issue de la rencontre de N'Djamena des pays membres de la francophonie pour relever le défi. Rayla Tsoumana depuis N'Djamena pour le studio Kalangou.
Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite une rediffusion du forum sur les conflits armés, quelles qualifications juridiques, et c'est avec Michel Dégis.